diciamo, le gestuate, le dovine, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maintenir. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On non la considère pas fatale. Il y a un petit métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer, maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, les Régors, bonjour. C'est chaque semaine sur les côtés Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims. Et puis aussi, à chaque instant, sur le site de l'OCL. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir. La semaine dernière, on avait fait une interview assez longue de Philippe de Saint-Nazaire qui se rendait à la manif de Rennes. Cette manif a eu lieu. Il y a eu d'autres manifs dont on avait parlé d'ailleurs la semaine dernière qui ont eu aussi lieu en même temps, samedi. Jean-Pierre, tu nous écoutes, je crois.
Oui.
Oui, alors tu étais donc à Rennes. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé à Rennes et puis aussi les informations qu'on a eues ailleurs, quoi?
Bah écoute, la manifestation de Rennes, ça a été plutôt une très bonne surprise. On peut dire bah, globalement qu'elle sauve un peu ce qui s'est passé dans le reste de la France, parce que les autres manifestations, que ce soit à Lyon, un peu plus à Lyon, mais enfin que ce soit à Strasbourg, Dunkerque, Toulouse ou Bordeaux, ça a été assez faible.
Oui.
Ça a été assez faible et on se dit que c'est pas sur cette base-là que le pouvoir va trembler, va être obligé d'arrêter les centrales nucléaires. Mais il y a eu la manifestation de Rennes, et la manifestation de Rennes, bon, qui était quand même un peu vécue comme centrale,
mais enfin, elle a réuni... Je crois que c'est eux qui avaient pris l'initiative, au départ, de cette manif.
Oui, voilà, c'est une coordination de Bretagne, de l'Ouest, du Grand Ouest, de différents collectifs. Ce n'est pas le réseau pour un avenir sans nucléaire, c'est des collectifs, dont certains étaient réseaux, d'autres pas, et qui avait mené cette campagne. Alors évidemment, en Bretagne, y a des luttes en cours, aussi bien sur le nucléaire que sur l'environnement. Hein. Il y a Notre-Dame-des-Landes, il y a la lutte contre les lignes THT, il y a la lutte contre l'EPR, mais enfin, bon, quand même, 25 000 personnes, entre 20 et 25 000 personnes, la presse dit parfois plus, c'est quand même une belle réussite dans l'ensemble. Voilà. Par ailleurs, évidemment, omniprésent dans la manifestation, le débat sur l'arrêt du nucléaire. Quel arrêt, comment, et toutes les différences qu'il peut y avoir entre les groupes politiques. Pour notre part, on avait fait le choix d'organiser un cortège anticapitaliste avec une grande banderole en tête. Le nucléaire, c'est le capitalisme. Arrêt immédiat. Et on peut dire que là aussi, de ce point de vue-là, on est plutôt content, puisque notre cortège, c'est quand même quelque chose de relativement nouveau d'arriver à regrouper des gens sur cette base-là, dans le mouvement antinucléaire. Notre cortège a regroupé près de 3000 personnes, en gros. Hein, c'était vraiment un gros cortège, quoi, une bonne part de la manifestation. Voilà, donc de ce point de vue-là, c'est positif. L'autre point positif, ça a été la composition... d'âge de la manif, quoi. C'est-à-dire que, alors qu'on est habitué souvent à des manifestations antinucléaires avec une moyenne d'âge quand même relativement élevée, hein, de gens qui avaient lutté depuis 20, 30, 40 ans contre le nucléaire. Là, il y a eu vraiment, dans toutes les tendances, une présence de jeunes, quoi. Il y a eu un rajeunissement assez important, et ça, c'est un phénomène qui peut laisser des traces, à mon avis.
Il faut espérer, parce qu'ailleurs, ça ne s'est pas passé, hein.
Ben, je sais pas trop ailleurs. Ce que je sais ailleurs, c'est qu'il y avait il y avait peu de gens. Il y a eu, quoi, quand on voit, Mille a tout cassé à Bordeaux, c'est dérisoire. Alors qu'il y a le Blayet, il y a, même pas Mille à Toulouse, c'est dérisoire aussi. Alors là, composition, sociale et d'âge, je la connais pas. Vous avez peut-être eu des échos, je ne sais pas.
Non, on a eu des échos sur Dunkerque.
C'était assez âgé aussi.
C'était assez âgé, il y avait entre 250 et 300 personnes, donc lamentable.
Ouais,
80% des gens qui étaient là, d'après ce que nous dit Xavier, le copain qui y était, c'était des gens qui étaient du Parti Vert, hein, et il y avait aussi des associatifs de la Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités à Lille. Mmh. En fait, cette manif à Dunkerque avait été organisée sur Lille, en fait. Hein.
Mmh.
Ça reposait absolument pas sur quelque chose de local.
Avec un paradoxe pour cette manif de Dunkerque qui, en fait, cette manifestation, donc, qui se rassemblait à 20-30 km de Gravelines, demandait la fermeture d'un réacteur de Gravelines et en suivant la fermeture de la centrale complète. C'est assez paradoxal parce que, bon, apparemment, il y aurait une fissure dans un des réacteurs de Gravelines. Et donc, ils jouaient un peu sur les deux tableaux, parce qu'en fait, ils demandent la fermeture de ce réacteur, alors que eux, dans leurs états-majors, ils réclament une sortie, mais bien lointaine, on l'a dit assez souvent, quoi.
Oui, oui. Bah, la coordination de l'Ouest, l'objectif, c'était la fermeture de l'EPR, hein, la fermeture de Flamanville. C'est ce qui était dit. Mais la tonalité dans la manifestation, c'était beaucoup plus large que ça. Je ne dis pas que toute la manifestation était pour l'arrêt immédiat, mais enfin, c'était plus que la fermeture d'une ou deux centrales, hein, très largement.
Est-ce que vous n'avez pas trop souffert de la présence très médiatisée d'Eva Joly, du mec du NPA, de...
Bah non, on les a pas vus. On en a souffert a posteriori dans les articles de presse, parce que bien évidemment, la presse, en faisant ses commentaires, n'a parlé que de ça. N'a parlé que, d'abord, faut reconnaître que la presse n'a quasiment rien dit, la radio, il n'a rien dit de toutes les manifestations antinucléaires, hein. Ça a été le blackout complet, il y en a eu plus sur les indignés, qui pourtant, étaient moins nombreux, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, il y en a eu plus pour quelques petites choses comme ça, que pour les manifestations antinucléaires. Et le peu qui en a été dit sur nous, c'est, bah oui, c'est sur les trois, le trio, mais dans la manifestation, ils étaient en queue de cortège.
D'accord.
Hein? Et on n'est pas allé les voir. On leur a même pas lancé d'œufs, alors qu'ils craignaient des œufs et des yaourts. Mais bon, ils n'ont pas eu à en souffrir. Ils nous ont pas gênés, non.
Ça sera
non.
Pour une prochaine fois.
On a réussi à faire un cortège autonome, à ne pas avoir le service d'ordre des organisateurs autour de moi, ce qui fait qu'il y a eu des petits groupes qui ont pu sortir de la manif pour faire quelques petites actions de bombage et de collage.
Ouais.
Voilà.
J'ai vu un bombage qui était pas mal sur
les
Internet.
Banques.
Ouais.
Non, sur la SNCF, pardon.
Sur la SNCF, c'était pas mal.
Oui. Bah ça on va reprendre ça. Oui, bien sûr. Alors justement, ça permet de rebondir sur les actions prévues à Valognes.
Absolument, ouais.
Parce que, puisqu'on parle de train, ça a été un des thèmes qu'un groupe de gens avait bien mis en évidence un tract, un 4 pages qui avait été distribué là-dessus à des milliers d'exemplaires, une énorme banderole sur un immeuble en voie de rénovation, une énorme banderole de 7 mètres sur 7 mètres, un truc comme ça pour appeler à Valognes. Et à la fin de la manifestation, il y a eu une assemblée générale avec 200-300 personnes, essentiellement des jeunes, pour essayer de voir ce qui pouvait être fait pour faire un camp pendant les 3 jours... l'appel là sous les yeux, ça s'appelle appel au camp de Valognes pour du 22 au 24 novembre 2011. Alors il s'agit de bloquer un train de déchets nucléaires, hein. Normalement ce train il sera aussi attendu en Alsace et en Allemagne, mais enfin essayer de faire un truc un peu consistant en France et au départ du train, puisque le train il doit arriver à Gorleben, hein.
Ouais.
Donc, ça a été discuté. C'est évidemment pas très... Le souhait, c'est que ça soit relativement massif, mais ça sera relatif. Parce que, bien évidemment, pour une action de ce genre, c'est en pleine semaine.
Aïe.
C'est en pleine semaine, hein, du 22 au 24. Bah oui, mais ça, c'est
oui,
pas nous qui décidons du train. Hein.
Oui.
Alors, du 22 au 24, camper en fin novembre dans le Cotentin, il va falloir des bras zéro, il va falloir des gens en bonne santé. Mais bon, il peut y avoir tout un... Alors, ce qui est appelé, c'est que, bon, bah, y a le maximum de gens là-bas. Il peut y en avoir plusieurs centaines, voire milliers, hein. Mais c'est aussi qu'il y ait des relais dans toutes les villes de France pour faire de la pub pendant le mois qui suit sur ce train Castor. Ouais.
Il paraît que c'est un des derniers trains qui doit s'acheminer vers Gorleben.
Bah, je ne sais pas, personnellement, je ne sais pas si c'est le dernier ou l'un des derniers, mais je ne peux pas te dire, hein. Je dirais des bêtises en te répondant. Ce que je peux donner, c'est déjà que le site...
Oui,
il y a, alors je peux donner ça parce que là il y aura toutes les infos, les textes. Il y a un texte très intéressant sur la refondation d'un mouvement anti-nucléaire. Bon, qu'il faut lire. Hein, je ne vais pas vous le dire. Alors le site c'est www.valogne.stopcastor. Alors Valogne avec un S, Stop Castor, ça fait une répétition des deux S et ça se touche. Hein.
D'accord. Oui.
Valogne Stop Castor. Noblogs, avec un S à blogs, noblogs.org. Voilà, donc tout le monde peut aller faire son tour là-dedans. On peut contacter aussi à Valogne Stop Castor à risop.net. Et puis tous les gens qui veulent des infos, ils peuvent s'inscrire et ils les recevront sur le blog. Voilà, il y aura un débat pendant un certain temps. Bon, puis commander des affiches et tout ça. Ça peut servir de relais... à deux niveaux, c'est-à-dire faire des actions réelles, un peu plus directes contre le nucléaire, mobiliser une population qui ne l'était pas tellement pour l'instant, à savoir des jeunes y compris radicaux, qui semblent un petit peu maintenant se bouger un peu sur le problème du nucléaire, contrairement à il y a quelques mois. Voilà, donc ça c'était un aspect intéressant malgré tout, on verra comment ça réagit, il y aura certainement des gens du réseau, il y aura peut-être même Greenpeace hein, qui va se brancher là-dessus, on ne sait pas quoi, on verra. Mais enfin ça vaut le coup de le tenter quoi. Et puis je vous renvoie surtout au texte qui a été fait dans ce 4 pages, qui rejoint beaucoup d'ailleurs le texte qu'a fait l'OCL et que l'OCL a mis sur son site et dans Courant Alternatif. Voilà. Que dire de plus sur la manifestation? Il y a eu pas mal de discussions parce que ce qui a été bien, c'est qu'avant la manif, pendant 2 heures, il y avait des tables de presse. Et donc les gens, calmement, qui arrivaient au plancher, ont pu discuter, lire des trucs, acheter du matériel, etc. Ça, c'était une initiative plutôt intéressante. Je voudrais signaler aussi que la banderole et le thème du cortège anti-nucléaire et anti-capitaliste a été aussi mené à Lyon. Avec la même banderole, le même contenu de la banderole, malheureusement avec moins de monde, mais quand même une relative réussite, c'est-à-dire 3000 personnes à Bugey, c'est plus que ce qu'ils en attendaient. C'est peut-être pas assez, mais c'est plutôt un deuxième lieu où il y a eu quand même un petit peu de satisfaction à ce niveau-là, et avec ce cortège... ce début de cortège, cette initiative sur l'arrêt immédiat et anticapitaliste. Voilà.
Ouais, bah super. Tu as encore des choses à dire, Jean-Noël ?
Non, je crois qu'à Bugey, il y avait les deux CNT qui étaient présentes, me semble, si j'ai bien lu les messages. Il y avait les deux CNT qui étaient ensemble et qui ont. Bon, il y a un tract qui a été. Diffusé également, raconté à un ami de Valence.
Ça, je ne sais pas. Hein. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y avait un tract commun. L'initiative, elle est venue de la CGA, le groupe libertaire de l'Homme, la Fédération anarchiste et l'Organisation communiste libertaire de Lyon.
D'accord.
Voilà, les quatre groupes qui ont signé et le tract et l'appel et fait la banderole. Après, il y a peut-être eu d'autres choses, mais je suis pas au courant. Hein.
Mm-hmm.
Par contre, l'initiative au départ à la... La reine, elle est venue de la Fédération anarchiste de Vannes, et il y a eu un collectif qui s'est formé dans lequel il y avait l'OCL, le CRAN, le collectif antinucléaire de Caen, militants, jeunes militants liés à la maison de la grève à Rennes. Voilà. Tous ces gens-là, c'est de là qu'est partie l'initiative de ce collectif, qui a fini par ne... Certains voulaient que ce soit un cortège libertaire. Nous, on a insisté pour que ce soit un cortège anticapitaliste, dans lequel les libertaires avaient leur place, mais que c'était beaucoup plus large que ça, hein, et pour l'arrêt immédiat. Ça a fonctionné à peu près, il y a toujours des pesanteurs groupusculaires qui existent, mais enfin bon. À noter que la CNT a pas voulu mais participer à ça, donc elle était derrière, devant les syndicats, ce qui est d'une certaine manière logique, parce que la CNT, c'est un syndicat, donc il voulait être avec. Et c'est l'Alternative Libertaire qui s'est retirée du collectif, parce qu'il n'y avait pas de... parce que la banderole de tête n'était pas signée et que les... qu'il n'y avait pas de service d'ordre commun pour empêcher les méchants autodomes.
Ah oui, voilà. Comme d'hab, quoi. Et voilà. Je voulais te demander, est-ce qu'il y a eu la présence remarquée des collectifs qui luttent contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes?
Oui, ah oui, bien sûr, oui.
Voilà, c'est intéressant parce que c'est quand même une convergence de lutte.
Alors, forte, ils étaient à double... Il y en avait beaucoup, mais à deux niveaux. Il y en avait impliqués matériellement au niveau global de la manif, donc avec les organisateurs aussi, si tu veux, c'est-à-dire l'infrastructure bouffe, vegan, évidemment, chiottes sèches, pour animer, pour survivre pendant les 2-3 heures avant la manif, sur le mail François Mitterrand, nous nous trouvions. Donc, un fort investissement matériel. Ils ont transporté du matériel qui était du camp de Notre-Dame à Rennes, quoi.
Ouais. Hein.
Bon. Et d'autre part, l'investissement, disons, politique, pour ceux qui étaient présents, ils sont venus dans le cortège anticapitaliste.
D'accord.
Hein. Voilà, donc... dans le cortège anticapitaliste, il y avait des tas de... enfin, ça, on a accueilli des tas de gens qu'on connaît pas, hein, je veux dire. Mais enfin, bon, il y avait des collectifs, dont Notre-Dame-les-Dents, ils étaient présents dedans. Voilà. Et ils se sont investis beaucoup sur la manif, oui.
Super.
Mais alors, moi, je connais pas les différentes tendances, comment, qui, pourquoi. Mais enfin, bon, dans l'ensemble, ça a fonctionné, oui. Alors bon, bah, c'est vraiment un essai, hein. Ça prouve que le mouvement antinucléaire, il est quand même très faible globalement, parce que même sans l'avoir beaucoup préparé, avoir moins de 1000 personnes à Bordeaux, par exemple, ou en plus aucune présence des libertaires sur Bordeaux.
Ouais, mais il y a aussi peut-être le fait que par rapport au réseau. Je
oui.
pense que dans certains coins, Bordeaux par exemple, c'était pas le réseau qui organisait la manif.
Non, c'est Tchernoblaï, mais enfin, c'est
pas le réseau, dirons-nous. C'est des gens
oui.
qui...
Oui, mais enfin, il y est toujours, hein.
Ah, d'accord.
Il a créé son association dehors, mais théoriquement, il est toujours membre. Enfin bon, là, d'accord, c'est les opposants au réseau. Mais enfin, on sait que l'opposition au réseau, elle est quand même réseau sur beaucoup de points, quand même.
Oui, tout à fait. Et moi, je crois que ces manifs qui ne représentaient pas grand-chose à Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, Dunkerque, ça prouve encore une fois que le réseau, c'est pas du tout un truc fait pour mobiliser, quoi.
Oui.
C'est vraiment du lobbying, quoi.
Oui, et puis que politiquement, ils sont très marqués. Ils sont tellement marqués qu'aujourd'hui, ils sont dans une phase probablement de négociation avec le PS. Et que par rapport à ça, ils ont mobilisé très très faiblement. Ils sont tous dans l'attente des nouvelles tractations.
Oui, bah, ils mobilisent, peut-être pas en tant que réseau, mais les composantes du réseau, évidemment, les Verts, par exemple, oui, ça, ils sont en pleine tractation. Ça, c'est clair, oui. Non, t'as raison, ils mobilisent pas vraiment. Enfin, ils ont une politique, bon, quelqu'un l'a dit, là, de lobbying et de communiqué de presse. C'est la presse, quoi, c'est les réseaux.
Oui,
c'est une politique de réseau. Mais c'est pas leur machin de vraiment mobiliser les masses, quoi. Mais puis ils y tiennent pas, à mon avis, ils y tenaient pas tellement, là.
Oui, tout à fait.
Hein, faut pas rêver, il y avait la primaire le lendemain. Voilà, donc je pense qu'ils sont relativement dans la merde. Alors c'est à nous, hein, faut pas rêver, on va pas renverser tout ça, quoi. Mais bon, je pense qu'il y a des cartes à jouer, quoi.
Ouais.
Il y a des cartes à jouer.
Est-ce que tu crois par rapport à part Valogne, il a été abordé d'autres débouchés à Rennes
collectivement, non.
Non.
Non. C'était un peu dans l'air. Alors, il a été abordé la refondation d'un mouvement anti-nucléaire, mais pour l'instant, il ne peut pas être abordé en termes de structure.
D'accord.
Il y a plein de justement, un des trucs de l'appel dans Valogne, c'est de dire qu'il faut arrêter de se taper sur la gueule, de mettre en avant systématiquement de s'apercevoir que la faiblesse du mouvement anti-nucléaire, elle tient aussi à certains types de divisions. Il ne s'agit pas de taire les différences, mais il s'agit de prendre des initiatives dans lesquelles, qui dynamisent un peu tout ça, quoi.
Oui, il faut des luttes, quoi, au moment.
De ne pas se battre à coups de texte.
On l'avait lu la semaine dernière, on avait lu de larges extraits de cet appel de Valogne la semaine dernière.
Ah oui, bon d'accord, c'est intéressant ce qu'ils disent aussi sur les énergies alternatives et tout ça, quoi.
Oui, tout à fait.
Donc, ça peut pas se passer en termes de, on va faire une grande réunion nationale avec et fonder un nouveau mouvement avec ses représentants, c'est pas possible, c'est même pas souhaitable probablement.
Oui, tout à fait.
Mais je pense que c'est par la multiplication des initiatives, y compris locales, qu'on peut sortir aussi du train-train purement démonstratif, purement pas coup de communiqué du réseau, quoi. Parce que ça, ils ont peur, hein, de ça. Ouais. Là, par exemple, à Bordeaux, ils demandent. C'est vraiment, c'est une autre époque, quoi. Leur truc, c'était de demander que les gens, ils arrivent tous habillés de la même couleur, tu vois.
Jaune.
Ouais. C'est passionnant, non?
Ouais, tout à fait. À Strasbourg, il y avait, je sais plus quoi, l'histoire.
Le trèfle, oui.
Le trèfle. Ouais. Mmh. Ouais, bon.
Voilà, ils sont sur encore des trucs de visuel.
Il y a même qu'on lance l'idée où les gens se donneraient la main à 100 000, je sais pas quoi.
Ouais.
C'est incroyable, 000, quoi.
Ça, s'ils y arrivent, hein, moi je suis pour, hein.
Oui,
s'ils trouvent 100 000 personnes qui veulent se donner la main. Non, mais oui, bien sûr. Mais bon, c'est pas là-dessus que tu vas. Voilà, alors donc je pense que maintenant il va y avoir des discussions un petit peu partout dans les collectifs, d'en voir ce qui peut être fait, revoir un peu tout ça, quoi. Et puis on verra l'initiative de Valogne, ce que ça donne, quoi. On verra ça. Le problème, c'est que c'est très rapide, quoi. C'est bientôt, quoi.
C'est bientôt, oui.
On peut penser que ce convoi, il va prendre la direction habituelle, c'est-à-dire le Nord-Pas-de-Calais, puis redescendre vers l'Alsace, enfin la Lorraine.
Ouais, on peut le penser. On peut penser aussi qu'ils ont plusieurs cordes à leur arc, mais...
Oui, tout à fait. Ouais.
Je sais pas. Oui, c'est ce qu'on pense, ouais. Mm-hmm. Enfin, donc évidemment, il n'y a pas que Valogne, hein, il peut se faire d'autres choses. Mais moi, l'idée, ce que j'avais, c'était de faire des trucs contre la SNCF un peu partout, sur la base de, justement, avant ils déportaient, maintenant ils transportent des déchets.
Ouais, c'était le slogan qui était bombé à Rennes.
Oui. Et donc, sur cette base-là, même des petits groupes dans une petite ville, ils peuvent faire des interventions sur la SNCF. Rentrer dans une gare, bomber à l'intérieur d'une gare, distribuer des tracts, prendre de la parole. Enfin, il y a des actions faisables dans les gares de cibler la SNCF pendant un mois, quoi.
Absolument.
Moi, je pense que c'est pas seulement d'aller à Valogne, parce que faut que ce soit plus large, parce que bien évidemment, les gens qui sont à Valogne, c'est un certain milieu de gens plus disponibles, plus jeunes. Ah, camper 3 jours dans le Cotentin en novembre, faut...
Voilà, faut pas avoir le rhume, quoi.
Non, non, mais bon, il y a des gens qui font. Mais tous les gens qui se sentent, pas en mesure de faire ça, il y a mille et une petites initiatives qui peuvent se faire sur le thème. La SNCF, elle nous dit qu'elle est à notre service, et nous on veut pas qu'elle transporte de déchets. Voilà. Je pense que là-dessus il y a de l'imagination à avoir.
Okay,
des banderoles à accrocher dans les gares, En 43, ils déportaient. En 2011, ils transportent des déchets nucléaires. Enfin bon, toi.
Ouais, tout à fait.
Voilà.
Bon, bah, écoute, on te remercie.
Ouais, salut, merci. Hein.
Au revoir.
Et puis à bientôt.
Ouais.
Hop. Faire une pause. Portami via da qui. Fuori da questa stanza. Con le tue mani piccole. Gli occhi fuori da queste mura, portami via da qui, se sei sicura così, è la tua voce. Si muove e tutti i tuoi capelli e con i tuoi colori portami via da qui.
Donc on vient d'écouter Gian Maria Testa, qui est chanteur italien, mais aussi chef de gare. Ça nous permet de faire le lien entre ce qu'on vient de dire à propos des transports de déchets nucléaires en train, puisque Gian Maria Testa est quelqu'un qui chante des chants de lutte, entre autres, et de rendre un petit hommage à nos amis du Val de Souza, avec qui nous ferons une émission la semaine prochaine, si tout va bien.
Ok, alors normalement on devrait avoir un coup de fil concernant une manifestation à Paris qui concerne l'anniversaire, on est aujourd'hui le 17 octobre, il y a 50 ans c'était le fameux 17 octobre 1961 avec des centaines d'Algériens qui ont été massacrés par la police française. J'espère qu'on va avoir le coup de téléphone. En attendant, je peux peut-être vous donner justement, je crois que la prochaine émission, ça va être sur...
Ça sera sur le, enfin,
la
si
lutte anti-TGV.
La lutte anti-TGV dans le Val. Alors, oui, c'est du coup, Gian Maria Testa tombe à pic, puisque en plus, c'est une lutte contre le train à grande vitesse, qui normalement, enfin, on en a déjà parlé, mais je le redis, qui normalement, cette ligne doit relier le Portugal à l'Italie, en sachant que l'Espagne a abandonné en partie cette ligne parce qu'ils sont trop déficitaires, si j'ai bien compris. On n'est pas du tout sûr que le Portugal pourra faire les travaux.
Faire les travaux, hein.
Quant à l'Italie...
Non, mais je pense que c'est le Portugal qui a abandonné les travaux. L'Espagne, pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas abandonné les travaux. Hein.
Ah bon ? Alors donc je me trompe de pays, peut-être. Enfin, ça reste à vérifier. L'Italie continue, enfin le gouvernement évidemment italien continue de clamer que les travaux doivent absolument se faire. On sait dans quelle situation quand même ils se trouvent. Et ceci étant, lors de nos dernières informations, les travaux de percement du tunnel sous les Alpes n'ont pas commencé. Par contre, il était très important pour le gouvernement italien de faire comme si les travaux commençaient pour pouvoir obtenir l'argent de l'Europe.
Oui, je voulais dire aussi que sur cet axe que tu viens de signaler entre le Portugal et l'Italie, il y a un passage en plein cœur du Massif central. Et qu'en ce moment, la SNCF est en train de rendre obsolète bon nombre de voies qui desservent ces régions, et qu'ils sont en train de sacrifier complètement les dessertes ferroviaires régionales, et qu'il y a aussi des batailles. Alors, c'est une bataille importante parce que s'ils parviennent à faire le vide de cette manière-là, ils vont essayer d'imposer le TGV à tous avec des prix exorbitants, puisqu'on a déjà signalé 25 milliards pour l'Italie. On ne sait pas ce que pourrait coûter ce projet-là depuis la chaîne pyrénéenne jusqu'au Massif central. C'est impressionnant.
Je crois que dans les prochaines semaines, on a aussi une émission sur Bas Élèves.
Oui, alors on l'avait aussi annoncé, mais il est donc fortement question d'avoir au bout du fil des personnes qui sont complètement investies dans le réseau national contre Bas Élèves, dont on a aussi abondamment parlé ici, hein, Bas Élèves. Mais là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des gens qui se sont impliqués dès le départ et qui sont toujours impliqués, avec, entre autres, un directeur d'une petite école pour qui il y a des ponctions sur salaire parce qu'il refuse de remplir Bas Élèves. Donc ça devrait être bientôt.
Par rapport à Bas Élèves, je peux y aller. Bon, il y a un certain Bastien Casal, un prof des écoles dans l'Hérault, donc du côté de Nîmes, qui avait reçu un blâme et qui s'était vu retirer sa fonction de directeur d'école en septembre 2009 pour avoir refusé de renseigner Bas Élèves. Il a fait appel au tribunal administratif de Montpellier et ce tribunal a rendu ses conclusions le 22 septembre 2011. Annulation du blâme, annulation du retrait de direction et obligation de réintégration dans sa fonction de directeur dans un délai d'un mois après la décision du juge. Donc c'est une victoire juridique peut-être, mais une victoire intéressante et importante pour tous ceux qui sont sur le terrain et pour le mouvement, parce qu'effectivement ça commençait à peser d'avoir des suppressions de direction de poste, de direction d'école, et puis aussi des retraits sur salaire réguliers.
Alors faut savoir, enfin bon, on redéveloppera ça, mais faut savoir que le collectif national de lutte contre Bas Élèves rembourse autant que possible les retraits sur salaire, c'est-à-dire qu'ils assurent le soutien aux personnes dont il y a des ponctions sur salaire.
Ouais,
ce qui est quand même pas mal, quoi.
Ce qui est pas mal, il faut dire que dans ce réseau, il y a énormément de parents d'élèves,
oui.
Puisque on peut dire qu'il y a une plainte qui a été faite il y a plus d'un an, qui a commencé il y a plus d'un an, une plainte régulière, et il y a eu plus de 2000 parents d'élèves à ce jour qui ont essayé de porter plainte, parce que jusqu'à maintenant, bien évidemment, la justice botte en touche et fait en sorte que les plaintes ne soient pas recevables. N'empêche que grâce à ça, il y a eu une mobilisation qui s'est vue aussi sur le terrain financier par rapport à la solidarité. On va peut-être faire une pause musicale.
Qui aurait un jour cru que je puisse trembler au son de ta que je n'imaginais pas. Un homme complètement perdu, un homme au savoir. Comme le temps passe et comme il nous habille.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
des infamies, entends-tu encore hurler des loups? Les docteurs sont-ils gentils?
Allez, en attendant au téléphone notre camarade Jean-Michel, bon, parce que on a des petits problèmes là pour se joindre, donc il va nous parler du 17 octobre 1961, donc c'était une rafle, plus que ça même, une manifestation qui est organisée par la section française du FLN, et donc une manifestation tout ce qui avait de pacifique, parce que bon, faut faire un petit rappel, quelques mois auparavant il y avait des désaccords entre la section, la fédération française du FLN, de France du FLN, dont le siège n'était pas en France mais était en Allemagne, et donc et la fédération de Paris, donc il y avait déjà des négociations qui étaient en cours pour l'autodétermination, pour la l'autodétermination de l'Algérie, et donc la fédération de France ne voulait pas qu'il y ait d'actes commis en France, et par contre la fédération de Paris, elle butait, avait buté une dizaine, plus d'une dizaine de flics, en particulier des supplétifs, et donc
des supplétifs, c'était
des harkis, en fait c'était des gens qui étaient engagés dans l'armée, qui plus il y avait des Français, des Français aussi militaires, et voilà, et donc quand il y a eu cet appel à la manifestation, Papon a laissé ses hommes faire, quoi. Alors Jean-Michel, est-ce que tu nous entends?
Oui je t'entends, ouais.
Salut Jean-Michel.
Salut à tous. J'ai écouté ce que tu disais attentivement, parce que il y a quand même un contexte particulier dans cette manifestation d'octobre 61 qui est quand même à rappeler pour comprendre ce qui se passe, quoi. Et ce qui est important, tu l'as dit, c'est que quand il y a eu cette manifestation contre le couvre-feu, à la sortie des bidonvilles où logeaient les travailleurs algériens, pour la plupart, il y a eu quand même des fouilles pour éviter que ça dégénère, ou en tous les cas pour pas laisser des sales trucs se passer, quoi.
Des fouilles organisées par qui, Jean-Michel?
Des fouilles organisées par le FLN Métro et la Fédération de Paris du FLN. Et donc, en fait, quand ils sont arrivés et que les flics ont commencé à taper, et à ratonner, et ben les manifestants n'ont pas pu se défendre, parce que faut pas non plus tout le temps idéaliser ou faire de la victimologie, mais il est évident que s'il y avait eu des moyens de se défendre de la part des manifestants qui étaient là, ils se seraient défendus, quoi. Se seraient défendus. Donc quelques jours auparavant, on sait aujourd'hui que il y a eu Papon qui a pu faire des tours dans les casernes pour dire aux gens qui seraient couverts. Mais je crois que même eux, ils ont été un petit peu dépassés par l'ampleur de la répression, quoi. Ça a été vraiment une sauvagerie, quoi.
Enfin, Papon avait fait une déclaration historique par rapport au, justement, dans la préfecture, dans la cour de la préfecture, il avait fait une déclaration absolument historique, assez personnelle, assez nervie.
Ouais, il leur avait dit, vous pouvez y aller, vous serez couverts de toute façon.
Oui, il avait dit, s'il y en a un qui tombe parmi nous, il y aura 10...
Voilà, c'est ça, ouais. Et voilà quoi, hein, c'est évident. Bon, moi je peux vous parler de la manif là, parce que je suis sur le côté, là, je suis en train de me faire larguer par elle. Il y a vraiment beaucoup de monde.
C'est vrai.
C'est très intéressant, c'est bien, c'est vraiment chic. Je dirais il y a un petit 4500 personnes, un petit 5000 personnes quand même.
Ah, c'est pas mal.
Ouais, c'est pas mal du tout. En plus, c'est toujours agréable de manifester la nuit dans Paris. Enfin, quand je dis la nuit, c'est quand on n'est pas encore totalement la nuit, mais quand le soir tombe comme ça, c'est toujours intéressant. Et en plus, il y a pas mal de monde d'Algériens eux-mêmes. Bon, il y a évidemment quelques crapules politiques, mais il y en a beaucoup moins qu'on ne pourrait attendre. On est parti du cinéma Le Grand Reste, et assez symboliquement, on a essayé de refaire le parcours qu'avait emprunté la manif du 17 octobre 61, quoi.
Alors dis-nous, Jean-Mi, est-ce que cette manif a été autorisée finalement?
Ouais. Finalement, elle a été autorisée vendredi à 14h, entre 14h et 16h30, il y avait eu des tractations, puisqu'il y avait justement l'envie de faire le parcours du 17 octobre. Et tu vois, du coup, c'était un peu tendu, quoi, parce que là, on va carrément se rendre au pont, là où il y a eu des témoignages, où il y a eu des premiers témoignages de
lynchage.
De lynchage et puis de balançage dans la flotte.
Tu veux dire
quoi.
Le pont de Neuilly?
Ouais.
Oui.
Ouais. Alors apparemment, d'après ce que je sais, c'est que d'un côté la manif est autorisée, de l'autre côté la mairie de Neuilly a fait interdire la manif.
D'accord. Alors peut-être qu'on va être obligé de s'arrêter à un moment ou à un autre pour ça m'étonnerait que les organisateurs outrepassent les autorisations. Ça me paraît pas être le genre, parce qu'il y a la vérité, l'envie d'apparaître, tu vois, de manière très très responsable et très digne. Mais bon, il y a quand même des choses intéressantes. Le fait qu'on soit très nombreux d'une part, le fait qu'on colle un petit peu sur le parcours de la manifestation, c'est toujours bien quand même de pouvoir s'approprier les murs comme ça. Et puis, faut dire aussi que cette année, c'est le cinquantenaire, hein, et il y a eu un effort qui a été fait sur l'organisation. Bon, il y a plusieurs films qui sortent.
Ouais.
Il y aura un film qui va sortir ce soir et qui est diffusé dans un cinéma parisien avec l'intervention de la réalisatrice. Puis il y a une grosse campagne qui est organisée pour la reconnaissance du crime d'État, quoi, avec des gens qui étaient un petit peu plus séparés. Je pense à Jean-Luc Kennedy, notamment, qui a travaillé là-dessus et qui avait témoigné au procès Papon.
Et qui avait été lui-même mis en accusation par la justice.
Ouais, hein. Il avait été mis en diffamation parce que justement il avait accusé Papon d'avoir... Enfin bon, c'est ce truc-là, ça fait que 10-15 ans que ça ressort, quoi. Parce qu'avant, on n'en parlait pas du tout, quoi.
Ah, ouais, alors pourquoi, comment t'expliques ça, qu'on n'en parlait pas, bon, du côté français, on le sait, mais que du côté algérien non plus, c'était motus et bouscousus.
Parce que il y a une version officielle de la guerre d'Algérie en Algérie, où, évidemment, comme la plupart, mais même l'écrasante majorité des gens qui sont au pouvoir, sont issus, étaient issus, parce que maintenant il commence à y avoir un phénomène générationnel où il y a des gens nouveaux qui arrivent, donc c'était les héros quelque part, et c'est eux qui pouvaient donner la version officielle. Par exemple, il y a un institut en Algérie qui s'appelle l'Institut pour la mémoire de la guerre d'Algérie, de la guerre d'indépendance, pardon, qui est le seul autorisé à diffuser des autorisations pour avoir accès aux archives. Donc il y avait une vision de l'histoire, et jusqu'à très très longtemps, par exemple, il était interdiction de parler des rixes qu'il y avait eu entre les différentes factions du mouvement algérien, le MNA, le Mouvement National Algérien de Messaliage, pardon, et puis le FLN, Front de Libération Nationale. Donc il y avait également eu aussi tout un tas d'opposition, notamment dans la Fédération de France, dans ce qu'on appelait le FLN Métropole, à l'intérieur des organes dirigeants du FLN. Par exemple, quelqu'un comme Mohamed Harbi, qui est un grand historien et qui a été un grand partisan et un grand organisateur de l'UFL Métropole, c'est quelqu'un qui a été condamné à mort et qui a été obligé de s'enfuir à la fin de 61, quoi. Puisque à la fin de 61, à partir de 62 et 63, il y a des membres très importants du FLN qui vont être soit zigouillés, soit exclus, par exemple Ben Bella, Krim Belkacem qui va être étranglé, etc., etc. Et il y a aussi le fait de dire que ce qui s'est passé en France, en grande partie, ce qui a permis aussi de gagner, on va dire que les militants français du FLN étaient les plus sociopolitiques, quoi. Puisqu'ils étaient au contact d'un prolétariat qui était déjà existant dans les usines, etc., etc. Ils ramenaient le fric, il y avait beaucoup de cotisations, ils ramenaient le pognon en Algérie à l'intérieur pour financer le mouvement. Et c'était eux qui étaient le plus sensibles, parce qu'ils étaient au contact aussi de la classe ouvrière française, à, j'allais dire, des pratiques et des options politiques socialisantes, si tu me permets d'utiliser le truc.
Tout voilà. À fait, oui. Ouais. Et moi, je pense que ce serait pas vain de rappeler ce qui s'est passé concrètement, en fait, parce que pendant très longtemps, pendant plusieurs décennies, on a complètement occulté les autorités, évidemment, ont complètement occulté le massacre de plus de 200 personnes. Aujourd'hui, on connaît des chiffres plus précis, on a des témoignages plus précis et des témoignages qui sont advenus récemment encore. Ça serait bien que tu rappelles brièvement ces éléments-là.
Alors,
et puis,
pas, ouais.
Attends, et juste pour terminer, pardon. Et puis pourquoi, par exemple, pendant très longtemps, il y avait une confusion entre octobre 61 et ce qui s'est passé quelques années en suivant, à Charonne.
L'année suivante.
L'année suivante, pardon. Ouais.
Alors, je ne sais pas ce que vous avez déjà dit, donc s'il y a redit pardon, donc on dit, hein, il y a des assassinats de flics et de supplétifs et également des assassinats de règlements de compte à l'intérieur du FLN et du MNA à l'intérieur de Paris, et puis aussi il y en aura aussi dans le sud. Donc il y a un couvre-feu qui est instauré par la préfecture de police de Paris sur les travailleurs algériens à partir de 19h. Il y a donc cette grande manifestation là qui est appelée, sur le déroulement exact des événements, c'est assez difficile, mais on sait que va y avoir un premier coup de feu qui va être tiré, pour ceux qui connaissent Paris, c'est juste à côté de ce qu'on appelle Beaubourg maintenant, et à partir de ce moment-là, ça va être le massacre, quoi. C'est-à-dire que, en fait, ce coup de feu qui a été tiré, on le sait aujourd'hui, par des flics, sur la dernière version officielle, il sera dit qu'il a été tiré par des militants du FLN, et le lendemain, il y aura le pouvoir, la préfecture de police de Paris, admettra 3 morts. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que visiblement, il y a eu donc ce coup de feu, un mouvement de panique, une charge, et puis les gens se sont dispersés. En fait, il y avait un véritable dispositif policier qui a permis de ramener tout le monde, avec notamment la réquisition de bus et de trams. Pardon ?
De la RATP.
Ouais, de bus et de trams qui avaient été réquisitionnés l'avant-veille. Ouais. Donc, ce qui dénote quand même d'un projet largement pensé prémédité, en tous les cas d'arrestation massive, des stockages d'interpellés dans plusieurs lieux, comme la préfecture de police de Paris, où là, il y aura un moment, on pense, un moment de révolte collective, et il y aura 30 personnes qui seront lynchées. Passer à tabac une trentaine de personnes, en tous les cas certains peut-être même, ce qu'on pourrait dire, exécutés à titre démonstratif, quoi, pour justement juguler ce truc-là. Il y a des gens qui vont être emmenés au fort de Vincennes. En gros, la police recommence, elle est entraînée, hein, elle avait fait la rave du Veldiv, donc la police parisienne, elle a une pratique de ça, elle sait bien le faire, quoi, elle le fait correctement, donc elle savait le faire. Et puis, dans la rue, par contre, là, il va y avoir une espèce de vraie sauvagerie où les gens vont être tapés, défoncés et balancés à la flotte.
Et étranglés avec des câbles de vélo ou de Solex.
J'imagine que que ça a été très très trash, quoi. Ouais. Alors dès le moment, on a des photos, hein. On a des témoignages et on a des photos. On a un petit film de quarantaine de secondes qui reste. Et on a surtout des photos d'un journaliste, d'un grand photographe qui s'appelle Elia Hazan, qui est à ce moment-là à Paris Match, qui prend des photos. Donc le truc est connu, quoi. si tu veux. Et puis ça se passe dans les rues de Paris, quoi. Donc les Parisiens voient ce qui se passe. D'ailleurs, il y aura quelques tags, quelques peintures qui seront faites le long des ponts de la Seine, qui donneront le titre là au film là qui sort là ici on voit les Algériens. Donc le truc est connu et la presse de gauche timidement parle de débordement, de trucs qui seraient un peu, mais bon, c'est pas possible. Et en fait, ce qui se passe là, c'est que tout le monde paye l'addition politique et sociale de l'attitude des partis dans la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que là aujourd'hui, il y a des gens du front de gauche. Historiquement, quand même, ils ont quelque chose à voir avec les gens qui ont déclaré la guerre en Algérie, à savoir la SFIO, quoi. Et Guy Mollet, à savoir François Mitterrand, qui était ministre de l'Intérieur et qui a autorisé la torture. Donc, tu vois, tous les partis ont quelque chose à voir, même le Parti communiste, qui a toujours voté les crédits de guerre et qui a jamais condamné ou mis quoi que ce soit en route pour empêcher le déroulement concret de la guerre d'Algérie. Donc, clairement, c'est un moment de la naissance, en plus de la Ve République, puisqu'en plus, après, il y aura la Ve République, après le putsch. Donc, c'est vraiment un moment de collusion de l'État. C'est un crime d'État, quoi. Et donc, quelque part, tous les partis qui ont participé à la gestion étatique ou à la gestion de cacher ce crime d'État, ils ont quelque chose à voir là-dedans. Enfin, une responsabilité, si c'est morale, aujourd'hui. Et donc, c'est pas étonnant que quelqu'un comme Papon, par exemple, qui soit un grand serviteur de l'État, un grand commis de l'État, il ait été constamment protégé. Alors sur la fin, il a été obligé quand même parce que c'était un peu trop gros. Bon, alors il a répondu sur les crimes contre l'humanité dans sa complicité de crimes contre l'humanité quand il était à la préfecture de Gironde, mais il a jamais répondu, il a jamais été interrogé sur le 17 octobre, quoi. Donc quelque part, il y a aussi un peu un sentiment d'urgence maintenant parce que les témoins du 17 octobre, ils ont aussi disparu. Et puis comme il y a eu aussi des petites fuites, quoi. C'est-à-dire il y a eu quelques documents qui ont été lâchés par des archivistes, hein, pour ceux qui s'en rappellent, c'était en 97, justement, pendant le procès de Jean-Luc Kennedy, quand il avait été accusé de diffamation. Et donc, c'est des petites choses qui sortent, mais par exemple, la plupart des archives qui sont à la préfecture de police de Paris, qui a son propre service d'archives, ne sont pas consultables. Tu peux pas travailler, j'allais dire, là-dessus, quoi. Tu peux pas avoir accès aux informations.
Alors je pense que on peut renvoyer à la lecture justement du livre de Jean-Luc Kennedy qui s'appelle La bataille de Paris. Et puis aussi sur ce sujet, on peut lire le livre de Monique Hervault qui s'appelle Chronique du bidonville de Nanterre. Donc Monique Hervault, c'est écrit H-E-R-V-O. Et apparemment, nous sommes obligés de te laisser là, Jean-Michel, en te remerciant en tout cas pour ton témoignage sur la manifestation.
Vous repassez quelqu'un de chez vous, s'il
vous
plaît.
Oui, j'arrive.
Allez. À bientôt.
À bientôt.
Salut, Jean-Mi.
Nous unissons les exploités, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs. Les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maintenus. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce. De la rationalité du capital, la globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout, on ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qu'il vampirise. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, monsieur de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrons. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, c'était Régor, chaque semaine sur l'Écho des Garrigues, Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims. Et aussi, à chaque instant, sur le site de l'OCL, OC Libertaire. Allez, c'était une parole énergiste communiste.